faut distinguer en fait les secteurs de clientèle. C'est sûr que tous les sous-traitants de l'industrie automobile qui sont proches de nous le vivent depuis le mois de mars dernier. Hein. Ça avait déjà démarré, donc ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est très fortement amplifié. Pour ce qui nous concerne directement, on ne peut pas dire qu'il y a encore d'effet immédiat, si ce n'est que de l'inquiétude de la part des tiers de l'entreprise. On est soumis à plein de questions de la part de nos salariés qui veulent peut-être plus que jamais comprendre où on va, comment on y va et le cap qu'on a pu fixer depuis quelques temps, eh bien on le tient ou s'il faut faire des changements.
Concrètement, est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça qui reviennent de la part de vos employés ?
En fait, il y a deux types de questions. Vous voyez, j'ai fait une réunion pour réunir l'ensemble de mon personnel il y a une petite quinzaine de jours, c'est même pas tout à fait le 7 novembre. Alors à la fois, ce sont des occasions en même temps pour bien rappeler le sens de ce qu'on fait, parce que quand ça devient plus dur, ou qu'en tout cas, on va se trouver devant de l'imprévu, parce que c'est sans doute une des caractéristiques du moment, c'est qu'on a beaucoup de mal à prévoir. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Donc rappeler les fondamentaux, rappeler le sens de ce qu'on fait et se faire du bien quand même aussi en se rappelant qu'on le fait bien et pourquoi on le fait et en quoi on est différent, eh bien ça marque encore plus. On peut dire qu'on a un effet de corps. Les gens se solidarisent pas mal autour du projet s'il est assez clair. Ensuite, il y a la deuxième étape. Ce qui est étonnant, c'est que chacun ensuite voit midi à sa porte très très vite. Hein, mais ça peut tout à fait se comprendre. Les inquiétudes personnelles, les considérations matérielles très très terre à terre, mais qu'il faut savoir écouter même si on n'a pas encore des réponses pour tout le monde.
Et justement, dans cette approche, quand on traverse des moments difficiles et qu'on est patron, qu'on doit sourire ou du moins motiver ses employés, les rassurer, est-ce que la religion alors est un plus, une aide ?
Ça, c'est la question piège. En tant que dirigeant chrétien, on nous dit souvent, alors qu'est-ce qui vous différencie des autres, hein ? D'abord, je préférerais dire la foi que la religion, parce que c'est sûr que quand on est dirigeant, il y a au cœur de ce qui nous anime, ça se mélange forcément un peu entre une motivation de création, de développement humain, de création de richesse. Tout ça fait que notre foi y trouve sa place. Mais je pense que ça nous ramène beaucoup dans ces périodes de crise, et je reprends ce terme de l'imprévu, à la nécessité de l'accepter même si on ne sait pas où il nous mène, de se laisser conduire par de l'innovation, parce qu'on est obligé de trouver des nouvelles solutions. Quelquefois, ces innovations viennent même, et tant mieux, de nos équipes, qui savent, parce qu'elles y croient, nous proposer des choses auxquelles on n'avait pas pensé ou qu'on n'avait pas mis en priorité. Parce qu'en fait, on était sur notre modèle, notre business plan était construit, puis là, d'un seul coup, il faut trouver autre chose. Donc, à ce sens-là, je dirais que là où ma foi me sauve, mais m'aide, c'est que je me rappelle le oui de Marie, quoi. Ça lui est tombé dessus. Bien sûr, elle était un peu préparée par les prophètes, mais elle a dit oui en me disant, advienne que pourra. Donc, je ne cache pas qu'il y a un peu cette attitude en se disant, ayons confiance, on n'est quand même pas là pour rien. Et si on s'y met avec cœur et surtout avec l'aide de nos équipes et en parlant clair avec les gens autour de nous, on va normalement pouvoir construire des solutions qui tiennent la route, quoi. Ceci dit, ça n'est pas pour négliger tous les effets néfastes. Bon, mais là, qu'il n'y a pas besoin de rappeler sur un sens économique, si on doit licencier, etc. Hein.
Et dans le cas de licenciement, comment est-ce qu'on fait la balance entre l'envie de tendre la main, d'être dans la compassion, et le fait d'être contraint à licencier, ce qui sont des moments durs et parfois brutaux?
Ils peuvent être durs sans être brutaux, hein, parce qu'il y a des choix justes qui sont durs. Mais si on est brutaux, là, je crois qu'on franchit la ligne jaune. Je ne pense pas que ça soit chrétien. Ça, je crois que c'est une caractéristique de quelqu'un qui veut être humain. Ou en tout cas, sans doute à ce niveau-là, les valeurs chrétiennes ont imprégné l'humanisme. Mais enfin, je vais pas partir dans le débat. Oui, j'ai été amené à licencier, y compris dans mon entreprise, dans des phases de croissance, parce que maintenant, on est 48, mais on a vécu, quand on avait 5 ans, je crois me souvenir, une phase délicate de croissance où il a fallu faire marche arrière pour pouvoir repartir ensuite. J'ai pris des leçons humaines qui m'ont aidé, peut-être à le faire mieux après, y compris de la part de ceux que je licenciais, qui me rappelaient que ma place n'était pas forcément dans me mettre à la place de celui que je licenciais et à ce moment-là de vouloir déborder de compassion, mais de tenir la mienne justement en parlant clair. Et là, la foi, en quoi peut-elle m'aider ? J'allais dire de prier avant, si on est câblé comme ça, prier pendant, aussi pour que Dieu trouve sa place dans la relation qu'on crée avec celui à qui on parle, quoi.
La foi, c'est quand même quelque chose dont on ne peut pas forcément facilement parler en entreprise, même si ça a un impact sur nos actions au quotidien. Est-ce qu'il y a des réseaux d'aide catholique, de communication entre PME ou entre entreprises ?
Parler de réseau, je ne crois pas que ce soit le bon mot. Parler de lieu de fraternité, oui. Bon, par exemple, on se retrouve entre chefs d'entreprise dans nos équipes une fois par mois, et là, ben, on parle des décisions difficiles qu'on a à prendre, des difficultés qu'on rencontre. C'est déjà un terrain extraordinaire pour mettre des mots sur les choses difficiles. Et ensuite, une fois que les mots sont mis et qu'on reçoit l'écoute, voire les commentaires de ses amis ou de ses frères, ben, souvent on voit un peu plus clair. La deuxième chose ensuite, c'est quand on a mis les mots, on s'abandonne et puis en les mettant sous le regard de Dieu quand même, je témoigne qu'on a quelquefois des surprises et des bonnes surprises avec des heureux hasards qui ne sont peut-être pas dus uniquement à notre force, à notre volonté. Ça peut se produire, par exemple, parce que vous allez trouver quelqu'un, comme par hasard, va avoir besoin de recruter la personne dont vous devez vous séparer. Ça m'est arrivé. Une fois qu'on a dit ça, les autres lieux, vous voyez si ça va plus loin, et là encore, vous allez dire que je fais un peu de publicité pour mon mouvement des EDC, entrepreneurs dirigeants chrétiens, c'est qu'on a un service qui s'appelle Trait d'Union, et on a une écoute vis-à-vis de chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté.
Donc des moments où on peut quand même se retrouver face à la crise, quelle est aujourd'hui votre espérance et est-ce que ça peut être une espérance concrète telle qu'une aide du gouvernement français ou de l'Union européenne ?
Quand on est entreprenant dans sa tête, on est habitué quand même à prendre des risques. Hein. Donc là, on trouve une situation qui est pleine d'imprévus. Nous, personnellement, vous voyez dans mon métier, elle me donne des opportunités, j'ai la chance d'avoir des services un petit peu nouveaux, des approches qui font d'ailleurs qui nous ont permis de grandir. C'est aussi une opportunité, quoi, de trouver des nouvelles réponses. Je ne dis pas que c'est le cas pour quelqu'un qui a un outil industriel dans lequel il ne peut plus investir et puis dont les clients s'arrêtent. Parce qu'à ce moment-là, et si ses fonds propres ne suffisent pas, c'est difficile. On arrive là au deuxième point qui est de se dire, c'est qu'à ce moment-là, on a besoin de consolider. Dans cette phase, l'espérance, on ne peut pas se contenter de dire et pourvu que demain tout aille bien, on est obligé de consolider, je crois, sur trois points. Vous venez de parler des fonds propres, parce que s'il faut réinvestir, changer la qualification des gens que nous avons pour mieux s'adapter, eh bien, ça coûte. Hein. La deuxième consolidation, c'est celle de la confiance, parce qu'on a besoin d'avoir des tiers autour de l'entreprise. Ça peut être les clients, ça peut être nos propres équipes, qui à ce moment-là nous re-questionnent encore plus sur le sens. Mais ça s'explique, hein. On peut très bien passer par un creux dans son carnet de commandes, par une année de perte. C'est pas pour autant qu'on est à la rue. Cette consolidation à ces deux niveaux-là en amène un troisième qui est l'obligation de communiquer. Il faut surtout pas s'enfermer dans sa difficulté et en parler avec ceux que nous côtoyons dans l'entreprise, quoi. Pour ce qui est des pouvoirs publics, pour des PME, les principales difficultés que nous pourrions être amenés à rencontrer, c'est que la mesure du risque nous concernant soit aggravée et que nos partenaires bancaires prennent peur à notre place parce qu'ils mesureront jamais avec notre vue, les risques que nous prenons, on ne peut pas leur demander ça, hein. C'est nous qui portons notre projet. Donc ce qui est essentiel, et j'ai l'impression que le gouvernement français le fait pour le moment, c'est de pousser à leur responsabilité d'accompagnant dans le risque nos partenaires financiers. Non pas de combler des pertes, c'est pas ça, mais de savoir accompagner les risques qu'on prend.